Je voudrais d'entrée de jeu situer cette contribution modeste à l'élucidation d'un certain nombre de problèmes, non pas à l'intention uniquement de ceux qui ne connaissent pas l'islam, mais aussi peut-être à l'intention de ceux qui s'en réclament. Mais tout de suite, et pour vous rassurer, je ne vais pas me placer sur les marches de l'orientalisme ou de l'islamologie, donc je ne vais pas me placer sur le plan académique des péchés, ni sur le podium de l'érudition traditionnelle, car ce serait de la prétention de ma part, je ne suis pas un chirte el-Azhar ou el-Tuna pour pouvoir vous faire un prêche à l'occasion du mois de Ramadan, et encore moins sur les hauteurs de la mystique pour procéder à une séance d'initiation. Donc vous voilà un petit peu rassuré. Je me situe à un niveau très modeste, le niveau d'un musulman moyen qui essaye avec vous, en commun, et peut-être que par la suite nous pourrions concrétiser cela par un débat ou un échange d'idées, de préciser un certain nombre de concepts et de réfléchir à propos d'un certain nombre de notions que le mois de Ramadan, en tant que mois sacré, doit certainement évoquer à la conscience de chacun de nous. Je voudrais aussi, enfin pour les amis de l'islam, pour les non-musulmans qui sont peut-être dans cette salle, me mettre à leur portée et ne pas faire preuve d'ethnocentrisme ou de dogmatisme religieux, de façon à ce que cette séance soit une occasion pour amorcer un véritable dialogue, non pas un dialogue de circonstances ou un dialogue de façade. J'ai choisi comme thème de cette causerie Ramadan, ascèse et symbolique. Et je ne vous cache pas que j'ai eu pas mal de réclamations de la part de certains amis, parce que ce titre a provoqué un certain nombre d'interrogations. On m'a demandé qu'est-ce que cela signifie, ascèse et symbolique. Mais vous allez voir, il s'agit de choses très simples. Qu'est-ce que c'est que le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, c'est le 9e mois de l'année hégrienne. Et le nom de Ramadan, parce que les noms des mois du calendrier musulman ont chacun un sens bien particulier. Et ce sens est dérivé de l'époque pré-islamique, car ces mois existaient avec leur dénomination bien avant l'islam. Et notez ici, pour les apprentis astronomes parmi vous, les mathématiciens, que contrairement à ce qui se passe maintenant et à ce qui s'est passé depuis l'Égypte, et depuis, je dirais même, la révélation coranique, le mois égyptien est redevenu un mois lunaire, car avant la révélation islamique, on utilisait le calendrier lunaire, mais on essayait de le faire coïncider avec le calendrier solaire et on utilisait ce qu'on appelait des mois de compensation ou an-nasi, qui a été condamné par le Coran. Et vous allez voir qu'à partir de là, à partir enfin du retour à l'origine du mois lunaire, du calendrier lunaire, il y a là un aspect de la symbolique de Ramadan qui est essentiel. Je ne veux pas anticiper sur ce que je vais vous dire, mais retenez cela, nous allons y revenir. Et c'est pourquoi le mois de Ramadan, lorsqu'on regarde l'étymologie en arabe, et du point de vue de la racine Ramadan, cela veut dire chaleur. Parce que ce mois de Ramadan, à l'époque où le calendrier était fixé ou cloué, le calendrier lunaire était cloué au calendrier solaire, le mois de Ramadan tombait pendant la période des chaleurs, et des grandes chaleurs. Et Ramadan veut dire grande chaleur. D'ailleurs, pendant la période du prophète lui-même, et après l'Égypte, et comme vous le savez, nous allons enfin le préciser tout à l'heure, puisque le jeûne du mois de Ramadan a été institué en deux de l'Égypte, donc pas tout de suite après la révélation coranique, les 9, ou plus exactement 8 Ramadans que le prophète a vécu lui-même avec la communauté islamique à Médine, se situait dans cette période de grande chaleur, car comme vous le savez, il faut à peu près 8 années, 9 années, pour que l'on change de saison, pour que l'on passe, par exemple, de l'été à l'automne. Et il faut 33 ans et quelques, pas pour que le mois de Ramadan, avec le décalage du mois lunaire par rapport au mois solaire, pour que le mois de Ramadan revienne à son point de départ. Ramadan est le seul mois du calendrier qui est été cité par le Coran. Et ceci nous fait d'emblée entrer dans le vif du sujet. Il est dit dans la deuxième sourate, sourate al-Baqarah, au verset 84 et 85, le mois de Ramadan, dans lequel on a fait descendre la révélation comme direction pour les hommes et preuve de la direction de la salvation. Je vous donne ici la traduction de l'Église de la chair, traduction qui n'est pas tout à fait satisfaisante, mais en tous les cas, elle vaut ce qu'elle vaut sur le plan scientifique. Et je continue, quiconque verra de ses yeux la nouvelle lune, qu'il jeûne ce mois. Et le texte original coranique, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Ce mois de Ramadan est marqué aussi, en plus de l'honneur qui lui est fait dans le Coran, puisque c'est le seul mois du calendrier qui est cité par le Coran, est marqué par un ensemble de faits mémorables dans l'histoire de la communauté musulmane depuis ses origines et même, je pourrais dire, jusqu'à nos jours. El-Biruni, dans son Kitab al-Athar, mentionne certains de ces jours mémorables. Le 6 du mois de Ramadan a été le jour de la naissance de l'imam al-Husayn, fils de l'imam Ali. Et quand on sait quelle est la place qu'occupe l'imam al-Husayn chez nos frères chiites, on comprend très bien l'importance de cette date. Le 10, c'est le jour de la mort de Khadija, la première femme du prophète. Et cette mort est un événement essentiel qui va marquer la vie du prophète. Nous verrons ça par la suite. D'ailleurs, cette mort de Khadija a été suivie, d'après les historiens. Certains disent qu'elle a été précédée, mais en tous les cas, elle a été vécue par le prophète conjointement à un autre deuil, une autre perte. Aussi grande, si ce n'est plus, la perte de son oncle, Abu Talib, et qui était en même temps son protecteur. Donc à 5 jours d'intervalle, il a perdu les deux personnages qui étaient les deux piliers, puis-je dire, sur lesquels il se reposait. L'un, Abu Talib, sur le plan politique, social, je ne dirais pas religieux, puisqu'il ne s'est pas converti à l'islam, et l'autre, Khadija, sur le plan affectif et religieux, puisque Khadija a été la première personne à embrasser l'islam et à croire à la prophétie de Mohammed. Parmi ces jours mémorables, il faut citer aussi le 17 du mois de Ramadan, qui est la date de la bataille de Badr. Et nous verrons que cette bataille de Badr joue, sur le plan de la symbolique musulmane, un rôle essentiel qui n'a pas cessé d'alimenter la réflexion, aussi bien des islamologues que des fouqahas, que des soufites, que des gens hein, qui se penchent sur le miracle islamique, parce qu'on peut très bien parler de miracle islamique, et même d'un point de vue purement laïque, purement scientifique, car la naissance de cette communauté, son éclosion et son développement de façon fantastique, a été un fait que l'histoire de l'humanité n'a enregistré qu'une fois. Le 19 du même mois de Ramadan, pas la même année, bien sûr, vous vous rendez bien compte, je donnerai en fait la chronologie tout à l'heure, a marqué la prise de la Mecque en l'an 8. Et quand on sait quelle est la valeur de la prise de la Mecque et le symbole qu'elle a joué dans l'accomplissement de l'œuvre du prophète et ce qui va en résulter par la suite comme épanouissement de l'islam non seulement à travers la presqu'île arabique, mais à travers le monde, ou une grande partie enfin, du monde, on comprend très bien quelle est la valeur de ce symbole. Nous y reviendrons en fait tout à l'heure parce qu'il y a des détails qui méritent que l'on s'y arrête. Le 21 du mois de Ramadan, jour de la mort de l'imam Ali. Encore un événement marquant, un événement essentiel qui a été longuement médité par la communauté musulmane et qui continue à être médité jusqu'à nos jours, non seulement par les frères chiites, mais aussi par un grand nombre de sunnites. Et je pense que la grande majorité, la majorité écrasante des sunnites, n'ont pas suffisamment encore médité la perte que fut l'assassinat de Ali et la dissension qui a provoqué le schisme au sein de la communauté musulmane. Car autrement, cette communauté ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est, à tous les points de vue, point de vue politique, économique, social et autres. Le même jour, 21, mais pas de la même année, on enregistre aussi la mort de l'imam Ar-Ridha, fils de l'imam Ali. Celui-là est enterré en Iran, alors que Hussein, l'imam Ali, Hassan, sont enterrés en Irak. Le 22, c'est le jour de la naissance de l'imam Ali, lui-même. Donc vous voyez, réellement, la vie de l'imam Ali et sa descendance a été marquée par le mois de Ramadan. Et entre le 21 et le 27, normalement et habituellement, nous désignons enfin la nuit du 27 du mois de Ramadan, se situe Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Mais vous savez qu'il y a une tradition depuis la vie du prophète qui veut situer cette nuit dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, mais un jour impair. Donc ça aurait pu être le 21, ou ça peut être le 21 de chaque mois de Ramadan, le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29. Et cette nuit est un événement capital. Nous verrons que sur le plan de la symbolique, cette nuit occupe une place essentielle puisque, d'après la tradition, c'est la nuit où le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Je situe là, si vous voulez, enfin, l'effet de la première génération de musulmans. Mais le mois de Ramadan a continué à marquer la vie et la chronologie des musulmans. Du temps de Mohammed lui-même, 6 expéditions ont été ordonnées par le prophète et les 6 ont été victorieuses. Pendant le même mois de Ramadan, Mohammed lui-même a marié son cousin Ali à sa fille Fatima Zahra. Encore un fait qui, sur le plan du symbole, joue un rôle essentiel dans la vie de la communauté. Lui-même s'est marié, donc le prophète lui-même s'est marié avec Hafsa, la fille de Omar, celui qui sera en fait le deuxième calife après la mort du prophète. C'est aussi capital sur le plan du développement de la communauté et du développement politique que connaîtra l'islam par la suite. Pendant le mois de Ramadan aussi, il s'est marié avec Zaynab bint Khuzaymah, qui a été baptisée Umm al-Masakin, la mère des déshérités. Et pendant le mois de Ramadan, on a enregistré aussi le décès de sa fille Ruqayya. Donc encore un deuil pour le prophète. Mais aussi pendant le mois de Ramadan, et à la suite de la conquête de la Mecque, une victoire fantastique sur le politisme dans la presqu'île arabique a été enregistrée du vivant de Mohammed et elle a constitué le couronnement de la victoire de l'islam sur le politisme, sur le shirk. Ça a été la destruction des grandes divinités représentées par les statues qui étaient Al-Lat, Wamanat, Wasuwar. Et lorsqu'on parle enfin de ces faits, on croit que c'est des faits enfin très simples puisqu'ils n'ont pas d'importance. Pas du tout. Lorsqu'on connaît enfin la vie du prophète, lorsqu'on connaît l'hostilité nourrie par les politistes à l'égard de Mohammed, on comprend que 8 ans ou 9 ans après l'Égypte et après être sorti de la Mecque dans des circonstances que nous allons rappeler enfin tout à l'heure, et après avoir subi toutes les brimades et toute la sauvagerie en quelque sorte des politistes, mais quoi ? Arriver à détruire, sous le regard de ces mêmes Mécois et de ces mêmes politistes, leur divinité adorée, c'était là une victoire fantastique que Abraham lui-même
aurait envié à Mohammed. Puisque Abraham avait essayé avant Mohammed de faire la même chose. Et pour couronner le tout, et pour procéder à l'unification spirituelle de l'ensemble de la presqu'île arabique, pendant le mois de Ramadan, et après, après la prise de la Mecque, au retour vers Médine, Mohammed et ses compagnons procéderont à la destruction de la mosquée des hypocrites, Masjid al-Dirar, qui se trouvait tout près de Médine, et ainsi, la dernière poche, si vous voulez, d'hostilité à la nouvelle religion a été réduite. Et ceci a été accompli en l'an 8. L'an 9 a été baptisé par les historiens musulmans, les historiens enfin de l'islam, comme étant l'an des députations, Sanat al-Wufud. C'était l'année qui a enregistré un véritable miracle, après le miracle de la révélation coranique, où les tribus arabes qui n'avaient pas embrassé l'islam s'étaient présentées spontanément et volontairement à Médine pour déclarer de l'islam et entrer dans la nouvelle religion. Et pendant le mois de Ramadan de cette année, l'an 9, il y a eu une députation qui joue le rôle d'un symbole essentiel que j'essaierai d'expliciter tout à l'heure, c'est la délégation de la tribu de Saqif qui est arrivée à Médine pour faire acte d'allégeance et embrasser l'islam. Or, cette tribu de Saqif qui habitait à Taïf, donc loin de la Mecque, 3 années avant l'Hijra. Et au moment où ils venaient de perdre Khadija et Abu Talib, cette année a été baptisée d'ailleurs l'année du deuil, Sanat al-Huzn. Et ce deuil a été total pour le prophète. Il a subi la plus grande épreuve de sa vie, car non seulement il a perdu ses 2 soutiens, mais l'ange Gabriel, Jibril, l'avait quitté pour un temps. Il n'a pas reçu de révélation. Et il est sorti de la Mecque, après avoir subi toutes les brimades. On raconte enfin qu'au moment où il faisait sa prière, on venait enfin lui jeter du sable à la figure, on lui envoyait des cailloux, on lui envoyait des ordures dans sa maison. Ses oncles, Abu Lahab et Abu Jahl, étaient parmi enfin ses ennemis les plus déclarés. Donc, cet homme qui a été élu par Dieu, qui a reçu la révélation, qui s'est habitué à recevoir cette révélation, parce que la révélation enfin n'arrivait pas enfin d'un seul coup, Gabriel venait de façon presque régulière, en tous les cas à des intervalles presque réguliers, et du début jusqu'à l'année du deuil, l'année de Hizm, le prophète ne restait pas enfin de longues périodes sans recevoir une révélation. Et voilà que pendant cette année, au moment où il a enregistré ses 2 pertes, Gabriel a gardé le silence. Il est sorti de la Mecque pour aller vers Taif et vers la tribu de Banu Saqif pour essayer de trouver auprès d'eux une certaine assistance ou un certain encouragement, une protection contre l'hostilité des Mécois. Et voilà qu'il a été reçu par les voyous de la tribu qui l'ont houspillé, qui lui ont jeté des pierres au point de le faire saigner. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est adressé à Dieu dans une supplique restée célèbre dans la Sira, où il demandait à Dieu de ne point l'abandonner, et de faire en sorte qu'il lui prête assistance et qu'il lui accorde sa miséricorde, car il n'a rien fait pour mériter tout ce qu'il est en train de subir. C'est à ce moment-là que le verset a été révélé. Verset qui touche profondément la sensibilité de tout musulman. « Wa dhuha wa layli idha saja » ما ودعك ربك وما قلى. Vous voyez donc que dans l'énumération de ces événements, le mois de Ramadan joue un rôle essentiel. Et ce n'est pas un hasard que tous ces événements se soient accumulés pendant ce mois. On comprendra que sur le plan de la thèse, et c'est là que nous allons essayer de comprendre la signification de cette assaise, que sur le plan de l'assaise, l'aspect purement privation, l'aspect ascétique au sens courant du terme, est peut-être l'aspect le moins prégnant, en tous les cas le moins important, de ce mois de Ramadan dans la vision réellement islamique. L'histoire va continuer à enregistrer, je dirais, cette même permanence des événements pendant le mois de Ramadan. En l'an 91, je fais un saut ici, presque d'un siècle après l'Hégire, c'est Moussa ibn Nusayr, cet Omeyyade, qui quitte Damas, qui traverse le monde musulman, aboutit jusqu'au Maroc, et de là franchit la Méditerranée et va occuper les marches militaires de l'Espagne, dans le sud de l'Espagne, au mois de Ramadan 91. Et en 92, c'est le berbère Tarq ibn Ziyad qui franchit le détroit et qui occupe tout ce qui va être l'Andalus, l'Espagne musulmane. C'est aussi un fait qui, sur le plan de la symbolique et du point de vue de ce que l'histoire d'Islam peut susciter à notre époque comme réflexion, et de ce qu'elle peut faire assumer à l'individu musulman comme responsabilité vis-à-vis de ce passé dont il veut porter encore des stigmates, ou dont il prétend assumer la dignité. Alors qu'en fait, si on veut bien réfléchir, il faudrait que les musulmans d'aujourd'hui soient ou des imbéciles invétérés, et je m'excuse auprès des familles ici présentes, ou alors des saints, mais alors d'une sainteté absolue, pour pouvoir se réclamer de ce même passé et se dire les successeurs de ces fameux ancêtres que furent les Tarq ibn Ziyad ou les Moussa ibn Nusayr. Ou un autre ancêtre, non moins célèbre, le fameux Saladin, Salah ad-Din, qui, au mois de Ramadan de l'année 584, va chasser les Francs de Syrie et récupérer toute la Syrie. Voilà encore un fait historique qui, sur le plan du symbole, donne au mois de Ramadan une autre signification. Et enfin, parce que l'histoire continue, on pourrait inscrire dans la même trajectoire cette semi-victoire de l'an 1393-1973 de l'ère chrétienne, que fut la bataille de Ramadan, pour certains, baptisée par d'autres la guerre du Kippour ou la guerre d'Octobre. Celle-là aussi était située pendant un mois de Ramadan. Vous voyez très bien que ce mois de Ramadan, contrairement à l'idée que l'on voudrait ancrer dans les esprits, aussi bien dans les esprits des musulmans que des non-musulmans, que le mois de Ramadan c'est le mois de l'ascétisme, c'est le mois de la renonciation, ou alors c'est le mois de l'indigestion, de l'opulence, du gaspillage, du tapage nocturne, à telle enseigne, et d'ailleurs que lorsque vous ouvrez n'importe quel dictionnaire français, vous verrez que ce qu'on a retenu du mois de Ramadan dans l'usage populaire français, le mot Ramdam, mais organisé sans Ramdam, c'est-à-dire organisé sans tapage nocturne. Voilà exactement où nous en sommes par rapport au mois de Ramadan. Mais Ramadan en tant qu'assaise, alors je vous ai donné enfin ce petit aperçu sur le plan historique, je vais le laisser de côté parce que nous allons y revenir tout à l'heure, et je voudrais maintenant revenir à Ramadan en tant qu'assaise. Ici, j'aimerais bien que l'on revienne au verset de la sourate 2, où il est dit, ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui furent avant vous. Peut-être vous serez pieux. Et le texte coranique original, ya ayyuhallazina amanu, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Retenez ici que le jeûne, donc en tant qu'ascèse, n'est pas une nouveauté par rapport aux musulmans, puisqu'il est dit dans le Coran que le jeûne a été prescrit pour les musulmans comme il a été déjà prescrit pour ceux qui vous ont précédés. Nous allons voir quels sont ceux qui nous ont précédés. Il ne s'agit pas uniquement des chrétiens et des juifs, il s'agit bien enfin d'autres peuples, d'autres peuplades, d'autres religions, d'autres civilisations qui se perdent dans la nuit des temps. Et il est dit, jeûnez des journées comptées. Celui qui parmi vous sera malade ou en voyage jeûnera un nombre égal de jours. À ceux qui peuvent jeûner, mais ne le font point, incombe un rachat. La nourriture d'un pauvre, c'est ça le rachat, pendant une journée. Quiconque fait volontairement un bien plus grand, cela est bien pour lui. Jeûner est un bien pour vous, si vous vous trouvez savoir. Excusez la traduction de M. Blachère, elle est ce qu'elle est, elle est littérale, elle n'est pas du tout satisfaisante, mais en tous les cas, c'est la moins mauvaise peut-être enfin, qui existe actuellement. Le mois de jeûne est le mois de Ramadan dans lequel on a fait descendre la révélation comme direction pour les hommes et preuve de la direction et de la salvation. Quiconque verra de ses yeux la nouvelle lune, qu'il jeûne ce mois. Celui qui parmi vous sera malade ou en voyage, jeûnera un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous de l'aise et ne veut point de gêne. Achevez votre période de jeûne, magnifiez Allah par gratitude qu'il vous a dirigé. Peut-être serez-vous reconnaissant. C'est évidemment pour ceux qui comprennent l'arabe, il est préférable de revenir au texte initial parce que يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Alors ici, je me permets de faire un peu de commentaire. Donc le jeûne a été prescrit pour les musulmans comme il a été prescrit pour d'autres peuples. Nous verrons tout à l'heure qui sont en fait les autres peuples. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Alors ici, il y a une gradation dans la révélation, parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la révélation n'a pas été donnée d'un bloc. Elle a été révélée graduellement et à chaque fois, il y a ce qu'on appelle asbab nuzul, c'est-à-dire les causes occasionnelles, en quelque sorte, de la révélation. Gabriel, l'ange Gabriel, venait révéler à Mohammed, verset par verset, les données que Dieu voulait bien dispenser à son prophète et à la communauté et qui devaient être révélées au moment voulu. Et si vous remarquez ce qui caractérise l'islam en tant que révélation, et on pourrait même parler d'une certaine pédagogie du Coran, c'est sa progressivité. La révélation et les prescriptions légales n'ont jamais été données d'un seul coup. Elles ont toujours été données de façon progressive. Le jeûne du mois de Ramadan existait chez les Mécois, chez les polythéistes même. Mohammed jeûnait avant. Bon, Mohammed n'était pas un polythéiste. Mais il jeûnait avant même de recevoir la révélation. Les polythéistes Mécois jeûnaient eux-mêmes. Et pendant le même mois de Ramadan, ils procédaient au jeûne et au renouvellement de l'habit de la Kaaba. Une chose qui va être conservée, d'ailleurs, par l'islam par la suite, puisqu'on va conserver la tradition du renouvellement de l'habit de la Kaaba pendant le pèlerinage. Voilà. Donc voilà des choses qui existaient bien avant l'islam et que l'islam va conserver. Lorsque Mohammed est passé à Médine, il a trouvé les juifs en train de jeûner le jour de Ashura, le 10e jour de l'année. Et ce jour de Ashura, c'est le jour où Dieu a sauvé Moïse et son peuple du Pharaon. Et les juifs, pour célébrer ce jour-là et honorer Dieu, pratiquer le jeûne, mais le jeûne qui faisait 24 heures, je crois, du milieu de la nuit au milieu de la nuit. Et Mohammed a posé la question, pourquoi est-ce que vous jeûnez? Il dit, mais c'est pour rendre hommage à Moïse, et d'après une certaine tradition, à savoir s'il est exact ou s'il est apocryphe. Mohammed aurait répondu, nous sommes plus dignes de Moïse que vous-même. Et il a imposé aux musulmans, à la communauté naissante, de jeûner le jour de Ashura avant cette révélation coranique qui va prescrire le jeûne de Ramadan. Et donc, la première manifestation du jeûne chez les musulmans, ça a été l'an 1 de l'Hégire à Médine, ça, et en même temps que les juifs, le jour de Ashura. Et donc, pour honorer Moïse et montrer en fait que l'islam n'est pas contre Moïse et contre la religion juive, bien au contraire. Et puis par la suite, lorsqu'il y a eu la révélation, alors ici, je vous fais remarquer qu'au deuxième verset, il est dit « Ayyaman ma'dudat » des jours comptés. Au début, quand cette révélation a été donnée à Mohammed, la période du jeûne a été fixée à 10 jours uniquement. Et ensuite, évidemment, elle a été fixée à 10 jours avec les permissions légales qui sont données aux voyageurs, aux malades. Et à celui qui ne pouvait pas jeûner, qui n'était ni voyageur ni malade, alors au début de la révélation, il lui était permis de ne pas jeûner, mais en compensation, il devait servir de la nourriture à un pauvre malheureux, à un miskin. Et par la suite, la révélation a continué, et lorsque on arrive à شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه, ici l'injonction devient impérative. Donc c'est tout le mois de Ramadan qu'il faut jeûner. ومن شهد منكم الشهر, alors là on va revenir à cette histoire de symbole et de croissant de lune qui annonce l'arrivée de Ramadan. Peut-être qu'on va le voir ce soir ou demain soir, monsieur le président. Il s'agit là d'un symbole fantastique pour lequel j'ai réservé une bonne partie en fait de cet exposé, et vous comprendrez en fait quelle est la sagesse qui s'exprime dans ces versets et qui s'exprime justement dans cette façon de conditionner le jeûne du mois de Ramadan par la vision directe de la lune, compte tenu des observatoires de Neuchâtel et du reste, et des calculs que peuvent faire enfin les astronomes et autres physiciens. Nous verrons pourquoi. Il ne s'agit pas enfin de lancer enfin des idées à caractère un peu démagogique, mais nous allons voir que la science actuelle permet de confirmer cet aspect de la question. Et évidemment, la suite du verset « وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ » Donc celui qui est malade, qui est en voyage, il peut ne pas jeûner, mais il doit compenser par la suite, par d'autres jours, des jours équivalents. « يُرِدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرِ وَلَا يُرِدُ بِكُمْ الْعُسْرِ » Un très beau verset et une très belle maxime de tolérance. L'islam n'a jamais été la religion de la contrainte, ni la religion qui met l'homme sous pression de façon, j'allais dire, inhumaine. Dieu est Dieu de miséricorde. Il est le Dieu de la rahma. Donc celui qui est vraiment tout près de l'homme, tout près de la nature humaine, qui connaît les difficultés de l'homme, et Dieu est miséricordieux, donc il est tolérant, il a laissé la porte ouverte pour toutes sortes de permissions et de facilités accordées à l'homme. Il ne demande jamais à l'individu, à l'être musulman, de se tuer à jeûner ou de se tuer à des pratiques ascétiques telles qu'on les voit jusqu'à nos jours dans d'autres religions et dans d'autres cultures. Mais avant de parler enfin de Ramadan en tant qu'ascèse, il serait peut-être bon enfin de rappeler qu'est-ce que c'est que l'ascétisme, qu'est-ce que c'est que l'ascèse, parce que un tel langage, généralement, lorsque vous aurez les ouvrages qui parlent d'islamologie ou qui traitent de l'islam ou de Ramadan, c'est rare que vous trouviez enfin cette terminologie. Cette terminologie est applicable au christianisme, peut-être au bouddhisme. On va l'appliquer même aux grecs, aux philosophes qui ont cultivé l'ascétisme, en fait, c'est le temps philosophique. Mais appliquer ça aux musulmans, enfin, le Ramadan, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles, puis ça s'arrête là. C'est tout, c'est la privation. Je crois qu'un petit rappel historique vaudrait le coup, pour que l'on comprenne très bien qu'au fond, l'ascétisme musulman plonge ses racines très loin dans l'ascétisme humain depuis le début de l'histoire de l'humanité et va beaucoup plus loin que toutes les autres formes de l'ascétisme, aussi bien l'ascétisme païen grec que l'ascétisme chrétien au début du christianisme, que l'ascétisme médiéval chrétien ou que l'ascétisme moderne chrétien. Dans l'Encyclopédie universaliste, il est dit que l'homme est à la fois corps, âme, esprit, et dans la mesure où il recherche sa perfection, il se libère des multiples attachements qui le conditionnent, et parvient ainsi à établir en lui une hiérarchie. Le corps se soumet à l'âme et l'âme à l'esprit. L'ascétisme désigne l'art d'introduire un ordre à ses différents plans. Voilà une définition de l'ascétisme. Au niveau physique, il est discipline. Au point de vue moral, il apparaît comme rectitude. Dans le domaine spirituel, l'ascétisme éveille et développe des énergies subtiles. La pratique de l'ascèse en tant qu'exercice répété permet à l'homme d'émerger de son état chaotique, de maîtriser ses instincts et ses passions. L'intelligence devient plus lucide, la volonté fortifiée, la raison agissante. Tous les systèmes philosophiques et religieux comportent une base ascétique à la fois négative et positive. Nous verrons ce qui, dans le mois de Ramadan et le jeûne du mois de Ramadan, ce qui peut être considéré enfin comme aspect négatif et ce qui peut être considéré comme aspect positif. Pour les anciens grecs, et si on veut donner enfin un petit raccourci historique de l'ascétisme, l'ascétisme chez les philosophes anciens, depuis Socrate, appartient à la formation de l'homme. C'est pourquoi d'ailleurs ils l'ont intégré à leur vocabulaire pédagogique. Pour les pythagoriciens, la vie est d'abord et avant tout purification. Et elle doit tendre à libérer l'étincelle divine. On commence déjà avec les pythagoriciens à trouver un langage qui s'apparente au langage religieux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les premiers philosophes musulmans, et cet homme va atteindre son apogée au 5e siècle avec Ahwan al-Safar, les frères de la pureté, on va découvrir des affinités extraordinaires avec des gens comme les pythagoriciens eux-mêmes, Platon et donc Socrate, et notamment Plotin. Je reviendrai enfin à Plotin tout à l'heure. Pour Platon, l'incarnation de l'âme dans un corps est le grand obstacle à la vie spirituelle, et toute la pédagogie de Platon, et donc tout l'ascétisme platonicien, va consister à libérer l'âme du corps, car les plaisirs et les peines, je prends ici enfin les termes de Platon, agissent comme des clous qui rivent l'âme au corps. Donc il faut faire sauter ces clous, et faire sauter ses plaisirs et ses peines. Il dit ceci dans le Phèdre. La vertu consiste donc à libérer l'âme du corps. Mais c'est surtout Plotin qui va développer l'ascétisme grec et le faire parvenir à son apogée. Il s'agit pour Plotin non seulement de rechercher Dieu, mais de s'unir à lui, de se confondre avec l'unité absolue. Et avec sa théorie de l'illumination, que les Arabes ont traduit par Al-Ishraq, Plotin, qui a été traduit par les premiers traducteurs arabes, parce que vous savez, Platon, on le traduit par Eflatoun, et Plotin par Aflotin. Alors, ils se sont mélangés un petit peu les pédales entre Platon et Aflotin, et le fait que Plotin ait été le disciple et le continuateur de Platon, on a confondu les deux noms ensemble, et on a confondu les œuvres ensemble, et on a caractérisé les deux, parce que tantôt on trouve Aflatoun, tantôt on trouve Aflotin. Mais on les a caractérisés tous les deux de divins. Et lorsqu'on parle de Aflatoun ou de Aflotin chez les philosophes arabes, on parle toujours de Aflatoun al-Ilahi ou Aflotin al-Ilahi. Donc on les a caractérisés de divins, et on a repris, les mystiques musulmans vont reprendre cette théorie de l'illumination, parce qu'ils vont la trouver correspondre parfaitement à la vision islamique de la sève. Pour les chrétiens des premiers siècles, le succès de la sève s'explique par l'attente de la fin des temps. Et cette fin des temps était perçue comme imminente pour les premiers chrétiens. Et donc le monde est éphémère, il faut s'en détacher. C'est la théorie développée par Antoine le Grand, 251-356 de l'ère chrétienne. Et c'est lui qui va instituer de façon rituelle et je dirais presque canonique, le jeûne, car avec l'austérité, le jeûne symbolise l'ascète du désert. Et on va se représenter toujours enfin l'ascète chrétien comme étant quelqu'un qui vit dans le désert. Et cette image va prendre plus de relief avec les ermites. Remarquez, le désert a toujours exercé une attirance pour l'ascétisme, y compris pour Mohammed lui-même, puisque la première manifestation de la sève chez Mohammed, avant la révélation, ça a été sa retraite dans la grotte de Hira, Ghar Hira, pendant plus de 6 mois, pendant lesquels il n'a pas cessé de méditer et de jeûner. C'est à ce moment-là qu'il a reçu la révélation, après s'être mis dans un état de purification totale. Et donc il dit, la priorité est donnée aux martyrs, puis aux ascètes vivant dans des grottes, des sépulcres, des arbres creux, ou bien encore perchés sur des colonnes, des stylites. Quand les chrétiens comprendront que les prophéties apocalypses ont été faussement interprétées, le monde ne sera pas pour autant justifié. Il demeurera toujours sous l'emprise de Satan. Le monde est passager, le présent est une sorte d'intérim. La sève, en rejetant les préoccupations oiseuses, permet déjà de pénétrer dans le paradis céleste, dont la vie monastique est une préfiguration. Voilà, si vous voulez, enfin, l'ascétisme chrétien des premiers siècles. Pour l'ascétisme médiéval, les choses vont être développées selon les sectes et selon les écoles, mais on va trouver quand même certains points communs. Selon les ordres religieux, l'ascèse va résider surtout dans le silence. Non pas seulement celui des lèvres, mais celui du cœur, ce dernier étant plus difficile à observer. Nous remarquerons dans un instant que le jeûne du mois de Ramadan repose sur la notion de imsek. Et le imsek, le fait de se retenir, donc d'exercer un acte volontaire de retenue, ça n'est pas simplement le renoncement à la nourriture, à la boisson, c'est aussi le fait de retenir ses pensées et de retenir surtout sa langue. Al-imsek wa al-lagh, le fait de ne pas se livrer au bavardage. Et donc le silence, qui commence par sa phase, si vous voulez, apparente et physique, pas, le fait de ne pas parler, mais aussi le silence des cœurs, c'est-à-dire cette attitude, je dirais, d'immobilité sereine, qui va permettre à toute la sensibilité d'individu de se raccrocher au principe divin et de décrocher en quelque sorte avec les réalités terrestres. Mais nous verrons enfin que pour les saints c'est encore plus ambigu parce qu'en en fait il ne s'agit pas de décrocher totalement et de verser dans l'ascétisme tel qu'il a été perçu par certains ordres chrétiens. Donc la perspective de l'ascèse chez les chrétiens, au Moyen-Âge, c'est le silence. Se dégager de ses passions désordonnées, introduire un ordre hiérarchique dans le corps, l'âme et l'esprit, aboutit à son point ultime à un silence. Grâce à la vie ascétique, l'homme s'est dégagé peu à peu du tumulte de ses pensées bourdonnantes, son imagination a cessé d'errer. Le corps a pu dominer son continuel frémissement, une stabilité a été acquise au profit de l'esprit. Parce qu'il s'est unifié, l'ascète a pu pénétrer dans un silence qui rend audible la parole de Dieu. Donc on se met dans un état de silence total pour pouvoir percevoir la parole de Dieu. Ce silence se présente comme la perfection de l'ascèse. Situé au-delà de la multiplicité, il fixe dans l'unité. Il est le rêve des vrais ermites, c'est-à-dire de ceux qui, ayant imité Abraham, donc on revient ici au père, si vous voulez, de trois grandes religions révélées, Abraham, qui a été le premier exemple de l'ascétisme, c'est-à-dire de ceux qui, ayant imité Abraham, ont quitté leur pays, leur parenté, leur maison, pour le pays inconnu que seul Dieu indique. L'ermite vit au désert. Celui-ci est moins un lieu géographique qu'un état de l'être. Ses exercices de renoncement l'ont libéré de toutes les servitudes issues du monde. Il plante sa tente et ne s'installe pas, sachant qu'il n'est point citoyen de la terre. Céleste par son origine et son destin, il se tient sur le seuil de la terre promise. Déjà, il savoure les prémices de la béatitude. C'est pourquoi les contemplatifs ont un visage joyeux. L'ascèse les a débarrassés de leur plomb. L'or qui est en eux se liquéfie et devient générateur de lumière. Les voici libres et libérateurs. Peu importe s'ils sont dépourvus de toute relation humaine, le mystère de leur rayonnement s'accomplit dans le silence. Et c'est là que l'ascèse musulmane va diverger avec l'ascèse chrétienne. Parce que, bien que recherche du silence de cœur et quête de la béatitude, elle n'est ni total renoncement, ni entière démission devant les problèmes de la vie quotidienne.